Extrait d'une lettre de John Ronald Reuel Tolkien à Milton Waldman, 1951. Mon cher Milton, vous m'avez demandé un bref exposé de ce que j'ai écrit en rapport avec mon monde imaginaire. Il est difficile d'en dire quelque chose sans en dire trop. Essayer d'en dire quelques mots, c'est laisser libre cours à un enthousiasme débordant, car l'égoïste et artiste éprouve le désir immédiat d'expliquer comment tout s'est développé, ce que c'est et ce que lui, pense-t-il, veut dire ou tente de représenter dans tout cela. Vous allez devoir subir un peu de ce récit, mais je joindrai un simple résumé du contenu du livre, ce qui est peut-être seulement ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin ou ce que vous aurez le temps de lire. Pour ce qui est des circonstances, du développement et de la composition, tout a commencé en même temps que moi, mais j'imagine que cela n'a pas grand intérêt pour quiconque à part moi. Je veux dire par là que, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours porté cela en gestation. Beaucoup d'enfants inventent ou commencent à inventer des langues imaginaires. Cela a été mon cas dès que j'ai su écrire. Sauf que je n'ai jamais cessé. Quoique bien entendu, en tant que philologue de métier, particulièrement intéressé par l'esthétique linguistique, mes goûts aient évolué, mes connaissances théoriques se soient améliorées, de même probablement que mon savoir-faire. Il y a maintenant à l'arrière-plan de mes histoires un réseau de langues dont seule la structure est ébauchée pour la plupart d'entre elles. Mais à ces créatures que j'appelle en anglais de façon trompeuse des elfes, sont associées deux langues apparentées qui sont plus achevées, dont l'histoire est écrite, et dont les formes, qui représentent deux aspects différents de mon propre goût linguistique, sont déduites scientifiquement d'une origine commune. De ces langues dérivent pratiquement tous les noms qui apparaissent dans mes légendes. Cela donne à la nomenclature, selon moi en tout cas, un caractère particulier, une cohésion, une cohérence linguistique et l'illusion d'une historicité, ce qui manque cruellement dans leurs équivalents. Tout le monde ne percevra pas l'importance que cela a comme moi je le sens, vu que je suis affligé d'une sensibilité aiguë sur ce point. Mais j'ai nourri, ab initio, une passion tout aussi fondamentale pour les mythes, non l'allégorie, pour les contes de fées, et surtout pour les légendes héroïques à la lisière du conte de fées et de l'histoire, qui sont bien trop peu nombreuses dans le monde à m'être accessibles à mon goût. Je n'avais pas encore achevé mes études quand la réflexion et l'expérience me révélèrent que les pôles opposés de la science et du romance ne relevaient pas de goûts divergents, mais étaient totalement apparentés. Je suis cependant loin d'être érudit en matière de mythes et de contes de fées, car sur ces sujets, j'ai toujours été à la recherche, pour ce que j'en savais, de matériaux, d'éléments d'un certain registre et d'une certaine qualité, et non de simples connaissances. Par ailleurs, et j'espère ici ne pas paraître absurde, j'ai très tôt été attristé par la pauvreté de mon propre pays bien-aimé. Il n'avait aucune histoire propre, étroitement liée à sa langue et à son sol. En tout cas, pas de la nature que je recherchais et trouvais, comme ingrédient, dans les légendes d'autres contrées. Il y avait les Grecs, les Celtes et les Romanes, les Germaniques, les Scandinaves et les Finnoises, qui m'ont fortement marqué, mais rien d'anglais, excepté le maigre matériau des chapbooks, sorte d'almanach. Bien sûr, il y a, tout le monde arthurien. Mais malgré sa force, il est imparfaitement naturalisé, étant associé avec le sol britannique et non anglais, et il ne venait pas combler le manque que je ressentais. Premièrement, son côté féerique est trop extravagant, fantastique, incohérent, répétitif. Ensuite, et surtout, il fait partie intégrante de la religion chrétienne et la contient explicitement. Pour des raisons que je ne développerai pas, cela me semble être rédhibitoire. Le mythe et le conte de fées doivent, comme tout art, refléter et contenir en solution des éléments de vérité ou d'erreur, d'ordre moral et religieux, mais pas explicitement, pas sous la forme connue du monde réel primaire. Je parle ici, bien entendu, de notre situation actuelle, non de l'époque ancienne, païenne, pré-chrétienne. Et je ne répéterai pas ce que j'ai tenté de dire dans mon essai que vous avez lu. Ne vous moquez pas. Mais il fut une époque, il y a longtemps que j'ai dû en rabattre, où j'avais dans l'idée de créer un ensemble de légendes plus ou moins reliées, allant du grandiose et cosmogonique au conte de fées des romantiques, le grandiose étant fondé sur ce genre mineur qui se trouve au contact de la Terre, le mineur tirant sa splendeur de la vaste toile de fond, que je pourrais en toute simplicité dédier à l'Angleterre, à mon pays. Elle serait du registre et de la nature que je désirais, une sorte de fraîcheur et de clarté. Elles évoqueraient notre atmosphère, le climat et le sol du Nord-Ouest, c'est-à-dire la Grande-Bretagne et les régions voisines en Europe, non l'Italie ou l'Égée, encore moins l'Orient. Et tout en possédant, si jamais je devais y parvenir, la pure beauté évanescente que d'aucuns qualifient de celte, bien qu'on la trouve rarement dans les choses celtiques authentiques et anciennes. Elle serait noble, épurée et adaptée à l'esprit plus mûr d'une contrée depuis longtemps déjà imprégnée de poésie. Je comptais faire un récit complet de certains des principaux contes et seulement placer de nombreux autres dans la structure sous forme d'ébauche. Les cycles seraient liés à un tout majestueux et dans le même temps laisseraient le champ libre à d'autres esprits et à d'autres mains, pratiquant le dessin, la musique et le théâtre. Absurde. Bien entendu, un projet d'une telle démesure ne s'est pas développé tout d'un coup. Les seules histoires étaient fondamentales. Elles jaillissaient dans mon esprit comme si elles m'avaient été données, et à mesure qu'elles apparaissaient séparément, les liens se développaient également. Tâche absorbante, bien que continuellement interrompue, d'autant que, sans même parler des nécessités du quotidien, mon esprit avait tendance à s'envoler vers l'autre pôle pour se consacrer à la linguistique. Et pourtant j'ai toujours eu le sentiment de rapporter ce qui était déjà là, quelque part, non d'inventer. J'ai bien sûr imaginé et même écrit bien d'autres choses, pour mes enfants en particulier. Certaines ont échappé à l'emprise de ce thème qui ramenait tout à lui et se ramifiait, ne lui étant en définitive apparenté en rien. Par exemple, Feuille de Nigel et Le fermier Gilles de Ham, les deux seuls à avoir été publiés. Le Hobbit, qui possède une existence bien plus essentielle, a été conçu tout à fait indépendamment. Je ne savais pas en le commençant qu'il y avait sa place. Mais il s'est avéré être la révélation de la complétude du tout, le mode de sa descente sur Terre et de sa fusion dans l'histoire. De même que les nobles légendes du début sont supposées regarder les choses à travers les yeux des elfes, le récit intermédiaire du Hobbit adopte un point de vue quasiment humain, et le dernier récit les mêle. Je n'aime pas l'allégorie. L'allégorie consciente et délibérée. Mais toute tentative pour expliquer la portée du mythe ou du conte de fées doit recourir au langage allégorique. Et bien entendu, plus une histoire a de vie, plus elle se prêtera à des interprétations allégoriques. Tandis que meilleure est l'allégorie intentionnelle, plus elle sera acceptable comme simple histoire. De toute façon, tout ceci se rapporte essentiellement à la chute, à la mortalité et à la machine. À la chute forcément, et ce motif apparaît sous divers aspects. À la mortalité, surtout en ce qu'elle affecte l'art et le désir créatif, ou devrais-je dire subcréatif, qui semble n'avoir aucune fonction biologique et se distinguer des satisfactions de la vie biologique simple et ordinaire, avec laquelle, dans notre monde, il est en effet généralement en conflit. Ce désir est à la fois uni à un amour passionné du monde réel et primaire, et de ce fait, il est pénétré du sentiment de la mortalité, et pourtant il n'est pas comblé par lui. Il a de multiples occasions de chute. Il peut devenir possessif, s'accrochant aux choses qu'il a faites et les réclamant comme siennes. Le subcréateur souhaite être le seigneur et dieu de sa création personnelle. Il est enclin à se rebeller contre les lois du créateur, en particulier contre la mortalité. Ces deux traits, seuls ou conjugués, mènent au désir de posséder le pouvoir, de rendre plus rapidement efficace la volonté, et donc mènent à la machine, ou magie. Par cette dernière, j'entends tout recours à des plans ou procédés, appareils, externes, aux dépens du développement des pouvoirs ou des talents internes qui nous sont propres, ou même le recours à ces talents avec l'intention corrompue de dominer, raser le monde réel ou contraindre d'autres volontés. De nos formes modernes, la machine est la plus évidente, bien qu'elle soit plus étroitement apparentée à la magie qu'on ne l'admet généralement. Je n'ai pas employé le terme de magie avec cohérence, et même Galadriel, la reine elfique, est forcée de reprendre les hobbits qui emploient indifféremment ce terme pour désigner à la fois les procédés et actions de l'ennemi et ceux des elfes. Si je ne l'ai pas fait, c'est qu'il n'y a pas de terme pour ces derniers, puisque toutes les histoires humaines ont pâti de la même confusion. Mais les elfes sont là, dans mes récits, pour marquer la différence. Leur magie est l'art, délivré de beaucoup de ses limites humaines. Plus aisée, plus rapide, plus achevée. La vision et la réalisation en correspondance parfaite. Et son objet est l'art, non le pouvoir. La subcréation, non la domination et la déformation tyrannique de la création. Les elfes sont immortels, tant que dure ce monde. Et ils sont par conséquent plus en proie au chagrin et au fardeau liés à l'absence de mort, au fil du temps et des changements qu'à la mort. L'ennemi sous ses formes successives est toujours naturellement en proie au désir de la pure domination, et est ainsi le seigneur de la magie et des machines. Mais le problème est que ce mal terrifiant peut jaillir, et le fait effectivement, d'une source apparemment bonne, le désir de faire le bien au monde et aux autres. Rapidement, et selon les propres plans du bienfaiteur, est un thème récurrent. Les cycles commencent par un mythe cosmogonique, la musique des Ainur. Dieu et les Valar, ou puissance ou Dieu en anglais, sont révélés. Ces derniers sont, devrions-nous dire, des puissances angéliques dont la fonction est d'exercer l'autorité qui leur est déléguée dans leur domaine pour diriger et gouverner, non pour créer, former ou reformer. Ils sont divins, c'est-à-dire qu'ils étaient originellement hors du monde et existaient avant sa formation. Ils tirent leur pouvoir et leur sagesse de leur connaissance du drame cosmogonique qu'ils ont perçu d'abord comme un drame, c'est-à-dire de la même façon que nous percevons une histoire composée par une autre personne, et plus tard comme une réalité. Du point de vue du seul procédé narratif, cela permet bien entendu d'introduire des êtres possédant le même ordre de beauté, de pouvoir et de majesté que celui des dieux des plus nobles mythologies, mais qui puissent être acceptés, pour le dire vite, par un esprit qui croit en la Sainte Trinité. Puis l'on passe rapidement à l'histoire des elfes ou Silmarillion à proprement parler. Au monde tel que nous le percevons, quoique, bien sûr, transfiguré selon un mode encore à moitié mythique, c'est-à-dire qu'il traite de créatures rationnelles incarnées d'une stature plus ou moins comparable à la nôtre. La connaissance du drame de la création était incomplète. Incomplète chez chaque dieu, pris individuellement, et incomplète collectivement si les connaissances du panthéon étaient rassemblées. Car, en partie pour réparer le mal fait par Melkor le rebelle, en partie pour parfaire l'ensemble jusqu'au moindre détail, le créateur n'avait pas tout révélé. La formation et la nature des enfants de Dieu étaient les deux principaux secrets. Tout ce que savaient les dieux, c'est qu'ils viendraient, leur venue. Ainsi, les enfants de Dieu sont fondamentalement apparentés et proches, et fondamentalement différents. Puisqu'ils sont également d'une nature totalement autre que les dieux, dans la formation de laquelle les dieux n'ont joué aucun rôle, ils sont l'objet d'un désir et d'un amour particulier de la part des dieux. Ce sont les premiers-nés, les elfes, et les suivants, les hommes. Le destin des elfes est d'être immortel, d'aimer la beauté du monde, de l'aider à se révéler pleinement grâce à leur délicatesse et leur perfection innée, de durer tant qu'ils durent, de ne jamais l'abandonner, même quand ils sont massacrés, mais d'y revenir, et toutefois quand viennent les successeurs, de les instruire et de leur faire place, de s'effacer, tandis que les successeurs se développent et absorbent la vie dont les deux peuples procèdent. Le destin, ou don, des hommes, est d'être mortel, affranchi des cercles du monde. Puisque le point de vue du cycle dans son ensemble est celui des elfes, La mortalité n'est pas expliquée par le mythe. C'est un mystère de Dieu dont on ne sait rien de plus que le fait que le dessein de Dieu pour les hommes est caché. C'est un motif de chagrin et d'envie pour les elfes immortels. Comme je l'ai dit, les légendes du Silmarillion sont particulières et diffèrent de tous les équivalents que je connais en ceci qu'elles ne sont pas anthropocentriques. Le point de vue et l'intérêt ne sont pas centrés sur les hommes, mais sur les elfes. Les hommes ont surgi par nécessité. Après tout, l'auteur est un homme. S'il a des lecteurs, ce seront des hommes. Et les hommes doivent surgir dans nos récits en tant que tels, et non simplement transfigurés ou partiellement représentés sous la forme d'elfes, de nains, de hobbits, etc. Mais ils restent en marge. Ce sont des arrivants tardifs et non, malgré leur importance grandissante, des personnages principaux. La cosmogonie comporte une chute des anges, devrions-nous dire. Bien qu'elle soit très différente dans sa forme, bien entendu, de celle du mythe chrétien. Ces récits sont nouveaux, ils ne sont pas directement tirés d'autres mythes et légendes, mais ils ne peuvent que contenir une large dose de thèmes ou d'éléments anciens, largement répandus. Après tout, je pense que les légendes et les mythes sont faits en grande partie de vérité, et on présente en effet des aspects qui ne peuvent être appréhendés que sur ce mode. Certaines vérités et modes de ce type ont été découverts il y a bien longtemps et doivent nécessairement réapparaître. Il ne peut y avoir d'histoire sans chute. Toutes les histoires traitent en définitive de la chute, du moins pas pour des esprits humains tels que nous les connaissons et les possédons. Ainsi poursuivons. Les elfes connaissent une chute avant que leur histoire puisse être racontée. La chute originelle de l'homme, pour les raisons indiquées, n'apparaît nulle part. Les hommes n'entrent en scène que bien après tout cela, et il y a seulement une rumeur selon laquelle ils seraient tombés pendant un moment sous la domination de l'ennemi et que certains s'en seraient repentis. Le corps du récit, le Silmarillion à proprement parler, traite de la chute de la famille la plus douée chez les elfes, de leur exil loin du Valinor, une sorte de paradis, la patrie des dieux, en extrême occident, de leur retour en terre du milieu, leur terre natale longtemps sous l'empire de l'ennemi, et de leur lutte contre lui, puissance du mal encore visible et incarnée. Ce récit tient son nom de ce que les événements sont tous liés à la destinée et à la valeur des Silmarilli, éclat de lumière pure ou premier joyau. La fabrication de pierres précieuses est le symbole principal de la fonction subcréative des elfes, mais les Silmarilli étaient plus que de simples belles choses. Il y avait la lumière. Il y avait la lumière du Valinor rendue visible dans les deux arbres d'argent et d'or. Ceux-ci ont été abattus par l'ennemi par pure malveillance, plongeant Valinor dans les ténèbres, bien qu'on en ait tiré les lumières du soleil et de la lune avant qu'ils ne meurent complètement. Une différence marquée ici entre ces légendes et la plupart des autres est que le soleil n'est pas un symbole divin, mais un substitut, et que la lumière du soleil, le monde sous le soleil, désigne alors un monde déchu et une vision imparfaite et sans unité. Mais le principal artisan des elfes, Fëanor, avait capturé la lumière du Valinor dans les trois joyaux suprêmes, les Silmarilli, avant que les arbres ne soient souillés ou abattus. Dès lors, cette lumière survécut seulement dans ses pierres. La chute des elfes survient en raison de l'attitude possessive de Fëanor et de ses sept fils à l'égard de ses pierres. L'ennemi s'en saisit, encertit sa couronne de fer et les conserve dans sa forteresse impénétrable. Les fils de Fëanor font le serment terrible et blasphématoire de combattre et de poursuivre quiconque, même les dieux, oserait revendiquer un droit sur tout ou partie des Silmarilli. Ils pervertissent la plus grande partie de leur famille, qui se rebelle contre les dieux et quitte le paradis pour mener une guerre sans issue contre l'ennemi. Le premier fruit de leur chute est la guerre au paradis, le massacre des elfes par les elfes. Cela, ainsi que leur serment maléfique, entache tous leurs actes héroïques à venir, entraînant des trahisons et annulant toutes leurs victoires. Le Silmarillion est l'histoire de la guerre des elfes exilés contre l'ennemi qui se déroule entièrement dans la partie nord-ouest du monde, en terre du milieu. Plusieurs récits de victoires et des tragédies y sont mêlés, mais cela s'achève par une catastrophe et la fin de l'Ancien Monde, le monde de ce long premier âge. Les joyaux ne sont recouvrés, par l'intervention au final des dieux, que pour être à jamais perdus pour les elfes, l'un dans la mer, un autre dans les profondeurs de la terre, et un autre comme étoile dans le ciel. Cet ensemble de légendes s'achève sur une vision de la fin du monde, sa dislocation et sa reformation, le recouvrement des Silmarilli et de la lumière d'avant le soleil, après une ultime bataille qui doit, je suppose, plus à la vision nordique du Ragnarok qu'à quoi que ce soit d'autre, bien qu'elle ne lui ressemble guère. À mesure que les histoires deviennent moins mythiques et ressemblent davantage à des histoires ordinaires et à des romances, les hommes s'y mêlent. Ce sont en majeure partie des hommes bons, des familles et leurs chefs qui, refusant d'être au service du mal et entendant des rumeurs sur les dieux de l'Ouest et les hauts elfes, fuient vers l'Ouest et entrent en contact avec les elfes exilés au beau milieu de leur guerre. Les hommes qui apparaissent sont principalement ceux des trois maisons des pères des hommes, dont les chefs deviennent les alliés des seigneurs elfiques. La rencontre des hommes et des elfes annonce déjà l'histoire des âges ultérieurs, et un thème récurrent est l'idée que chez les hommes, tels qu'ils sont à présent, il y a un lien de sang et un héritage provenant des elfes, et que l'art et la poésie des hommes en dépendent en grande partie ou sont modifiés par lui. Ainsi, il y a deux mariages entre mortels et elfes. Ils fusionnent plus tard dans la famille des Arendil, représentée par Elrond, le semi-elfe, qui apparaît dans toutes les histoires, même dans le Hobbit. L'histoire principale du Silmarillion, et la plus complète, est l'histoire de Beren et Lúthien, la jeune elfe. C'est là que nous trouvons, entre autres, la première illustration du thème, qui deviendra prépondérant chez les Hobbits, selon lequel les grandes lignes de l'histoire du monde, les roues du monde, sont le plus souvent actionnées non par les seigneurs et les gouvernants, ni même les dieux, mais par ceux qui sont en apparence inconnus et faibles, du fait des secrets de la création et du rôle imprévisible par toute sagesse hormis celle de l'unique que constituent les intrusions des enfants de Dieu dans le drame. C'est Beren le mortel hors-la-loi qui réussit, avec l'aide de Lúthien, simple jeune fille bien qu'elle soit une elfe de sang royal, là où toutes les armées et les guerriers ont échoué. Il pénètre dans la forteresse de l'ennemi et arrache un des Silmarilli de la couronne de fer. Ainsi, il gagne la main de Lúthien et le premier mariage entre mortel et immortel s'accomplit. En tant que tel, l'histoire, selon moi belle et puissante, est un romance héroïque et féerique, accessible même avec une très vague connaissance générale du contexte. Mais c'est également un maillon essentiel du cycle, qui serait privé de sa pleine valeur s'il ne se trouvait pas là. Car se saisir du Silmaril, victoire suprême, conduit au désastre. Le serment des fils de Fëanor entre en œuvre et la convoitise du Silmaril entraîne la ruine de tous les royaumes des elfes. Il y a d'autres histoires presque aussi complètes et tout aussi indépendantes bien que liées à l'histoire générale, comme les enfants de Húrin, récit tragique autour de Túrin Túlambar et de sa sœur Niniel. Túrin en est le héros, figure dont on pourrait dire, selon les personnes qui aiment ce genre de choses, mais ce n'est pas très utile, qu'il est tiré partiellement de Sigurd le Volsung, d'Édipe et du Kullervo finnois. Il y a aussi la chute de Gondolin, la principale forteresse elfique, et le récit, ou les récits, d'Earendil le voyageur. Son importance réside dans le fait qu'il est celui qui conclut le Silmarillion, et qu'il fournit à travers ses descendants les personnages et les maillons principaux des récits des âges ultérieurs. Sa fonction, comme représentant des deux familles, les elfes et les hommes, est de trouver un passage pour retourner par la mer sur la terre des dieux, et comme ambassadeur, de convaincre ces derniers de reconsidérer le cas des exilés, d'avoir pitié d'eux et de les sortir des griffes de l'ennemi. Elwing, sa femme, descend de Lúthien, et possède encore le Silmaril. Mais la malédiction opère toujours, et le foyer des Arendil est détruit par les fils de Fëanor. Or, c'est ce qui apporte la solution. Elwing, en se jetant dans la mer pour sauver le joyau, rejoint Earendil, et grâce au pouvoir de la Grande Pierre, ils parviennent enfin en Valinor et accomplissent leur mission, dont le prix à payer est l'interdiction définitive de retourner auprès des elfes et des hommes ou de résider parmi eux. Alors les dieux passent à nouveau à l'action. Une grande puissance surgit de l'ouest et détruit la forteresse de l'ennemi. Il est lui-même projeté hors du monde dans le vide pour ne jamais réapparaître sous une forme incarnée. Les deux Silmarils restants ne sont repris sur la couronne de fer que pour être à nouveau perdus. Les deux derniers fils de Fëanor, poussés par leur serment, les volent et sont détruits par eux. Ils se jettent dans la mer et dans les entrailles de la terre. Le navire des Arendil, orné du dernier Silmaril, est placé au ciel, dont il devient l'étoile la plus brillante. Ainsi s'achève le Silmarillion et les récits du premier âge. Le cycle suivant traite, ou traiterait, du deuxième âge. Mais c'est sur Terre un âge sombre, et très peu de cette histoire est racontée, ou a besoin de l'être. Lors des grandes batailles contre le premier ennemi, les terres ont été disloquées et ruinées, et l'ouest de la Terre du Milieu a été dévasté. Nous apprenons que les elfes exilés ont été, sinon obligés, du moins fortement invités, à retourner dans l'ouest pour y vivre en paix. Ils devaient résider de façon permanente, non plus en Valinor, mais sur l'île solitaire d'Eressëa, à portée de vue du royaume béni. Les hommes des trois maisons sont récompensés pour leur bravoure et pour leur fidèle alliance en étant autorisés à résider, le plus à l'ouest de tous les mortels, sur la grande île de Númenoré, l'Atlantide. La mortalité, destin ou don de Dieu, ne peut bien entendu être abrogée par les dieux, mais les Númenoréens ont une grande durée de vie. Ils prennent la mer et quittent la terre du milieu pour établir un grand royaume maritime à la limite de la portée de vue d'Eressëa, mais non du Valinor. La majorité des hauts elfes regagnent également l'ouest. Pas tous. Quelques-uns des hommes parents des Númenoréens demeurent sur la terre ferme, non loin des rivages de la mer. Une partie des exilés refuse de rentrer ou d'y faire son retour, car la route vers l'ouest reste ouverte aux immortels, et au Havre gris, des navires se tiennent en permanence prêts à partir en mer pour toujours. Par ailleurs, les orques, gobelins et autres monstres élevés par le premier ennemi ne sont pas totalement détruits. Et il y a Sauron. Dans le Silmarillion et dans les récits du premier âge, Sauron est un être du Valinor perverti au service de l'ennemi et devenu son capitaine en chef et son serviteur. La peur le pousse à se repentir lorsque le premier ennemi est complètement vaincu, mais il n'obéit finalement pas à l'ordre de s'en remettre au jugement des dieux. Il s'attarde en terre du milieu. Très lentement, avec au début d'honnêtes intentions, la réorganisation et la réhabilitation de la terre du milieu en ruine abandonnée des dieux, il devient une réincarnation du mal et n'est que convoitise du pouvoir absolu, ainsi consumé d'autant plus violemment par la haine, particulièrement envers les dieux et les elfes. Tout au long du crépuscule du deuxième âge, l'ombre grandit à l'est de la terre du milieu, étendant de plus en plus son emprise sur les hommes qui se multiplient alors que les elfes commencent à s'effacer. Ainsi, les trois thèmes principaux sont les elfes qui s'attardent en terre du milieu, la transformation de Sauron en un nouveau seigneur ténébreux, maître et dieu des hommes, et Númenor, l'Atlantide. Ils sont traités à la manière d'Annal et font l'objet de deux récits ou comptes rendus, les Anneaux du Pouvoir et la Chute de Númenor. Tous deux constituent l'arrière-plan essentiel du Hobbit et de sa suite. Dans le premier récit, nous voyons une sorte de deuxième chute, ou du moins d'erreur, commise par les elfes. Il n'y avait rien de vraiment grave dans le fait qu'ils s'attardent, bien qu'avec tristesse, malgré les conseils, sur les terres mortelles, lieu de leurs anciens actes héroïques. Mais ils voulaient une chose et son contraire. Ils voulaient la paix, la félicité, et se souvenir parfaitement de l'Ouest, tout en demeurant sur la terre ordinaire, où leur prestige de personne de grande noblesse, supérieur aux elfes sauvages, aux nains et aux hommes, était plus grand qu'au bas de la hiérarchie du Valinor. La perspective de s'effacer devint obsédante pour eux qui percevaient le passage du temps, la loi du monde sous le soleil, suivant ce mode. Ils devinrent tristes, et le rare, dirons-nous, devint passéiste, et tous leurs efforts devinrent plutôt une sorte d'embaumement, même s'ils conservaient également les anciennes intentions de leur peuple, l'embellissement de la terre et la guérison de ses blessures. Nous apprenons des choses sur un royaume qui subsiste dans l'extrême nord-ouest, plus ou moins dans ce qui restait des anciennes terres du Silmarillion sous le règne de Gil-galad et sur d'autres colonies, telles Imladris, Fandeval, auprès d'Elrond, ou une autre grande colonie, en Eregion, au pied du versant occidental des montagnes de brume, tout près des mines de la Moria, le royaume principal des nains au deuxième âge. Là naquit une amitié entre des peuples d'habitude ennemis, les elfes et les nains, pour la première et unique fois, et l'art de la forge atteignit son plus haut degré de développement. Mais de nombreux elfes écoutèrent Sauron. Il était encore beau en ces temps reculés, et ses intentions et celles des elfes semblaient en partie se rejoindre. La guérison des terres dévastées. Sauron trouva leur point faible et suggéra qu'ils pouvaient, en s'aidant mutuellement, rendre la terre du milieu occidental aussi belle que le Valinor. C'était en fait une attaque voilée à l'encontre des dieux, une incitation à essayer de former un paradis séparé, indépendant. Gil-galad rejeta toutes les propositions en ce sens, de même qu'Elrond. Mais en Eregion, de grands travaux commencèrent, et les elfes faillirent bien se laisser tenter par la magie et les machines. Grâce au savoir de Sauron, ils fabriquèrent des anneaux du pouvoir. Pouvoir est un terme de mauvais augure et sinistre dans tous ces récits, hormis quand il s'applique aux dieux. Le principal pouvoir, de tous les anneaux pareillement, était d'empêcher ou de ralentir la dégradation, c'est-à-dire le changement dans ce qu'il a de regrettable, de préserver l'objet désiré ou aimé ou son apparence, ce qui est plus ou moins une intention des elfes. Mais il renforçait également les pouvoirs naturels de leur possesseur, s'apparentant ainsi à la magie. Intention qui peut aisément être corrompue en une maléfique convoitise de domination. Pour finir, ils avaient d'autres pouvoirs provenant plus directement de Sauron, le nécromancien comme on l'appelle, tandis qu'il projette une ombre et un présage furtif sur les pages du Hobbit, tels que de rendre invisible le corps physique et de rendre visibles les choses du monde invisible. Les elfes fabriquèrent en Eregion trois anneaux d'une beauté et d'un pouvoir suprême, sortant presque uniquement de leur propre imagination et assignés à la préservation de la beauté. Ils ne conféraient pas l'invisibilité. Mais secrètement, dans le feu souterrain, en son propre pays noir, Sauron fabriqua un anneau unique, le maître anneau, qui rassemblait les pouvoirs de tous les autres et les contrôlait, de sorte que son porteur puisse voir les pensées de tous ceux qui utilisaient les anneaux secondaires, puisse gouverner toutes leurs actions et puisse au final les asservir totalement. C'était cependant sans compter sur la sagesse et les fines intuitions des elfes. Au moment même où il prit possession de l'unique, ils en eurent connaissance, de même que de son dessein secret, et ils prirent peur. Ils cachèrent les trois anneaux si bien que Sauron lui-même ne découvrit jamais où ils étaient, et ils ne furent pas souillés. Quant aux autres, ils tentèrent de les détruire. À cause de la guerre qui s'ensuivit entre Sauron et les elfes, la terre du milieu, particulièrement à l'ouest, fut encore un peu plus en ruine. L'Eregion fut conquis et détruit, et Sauron s'empara de nombreux anneaux du pouvoir, qu'il donna, précipitant leur corruption et leur asservissement ultime, à ceux qui voulaient bien les accepter, par ambition ou avidité. D'où l'antique poème qui apparaît comme le leitmotiv du Seigneur des Anneaux, trois anneaux pour les rois des elfes sous le ciel, sept aux seigneurs des nains dans leur salle de pierre, neuf aux hommes mortels voués à trépasser, un pour le seigneur sombre au trône de ténèbres, au pays de Mordor où s'étendent les ombres. Ainsi Sauron devint presque tout puissant en terre du milieu. Les elfes résistaient en des lieux secrets, non encore découvert. Le dernier royaume elfique de Gil-galad se maintenait avec difficulté sur les rivages, tout à l'ouest, là où se trouvaient les havres des navires. Elrond, le semi-elfe, fils des Arendil, préservait une sorte de sanctuaire enchanté à Imladris, Fandeval en français, à l'extrême limite orientale des terres occidentales. Mais Sauron règne sur toutes les hordes qui se multiplient, des hommes qui n'ont eu aucun contact avec les elfes, ni donc indirectement avec les Valar, les dieux purs et non déchus. Il gouverne un empire en plein développement depuis la grande tour sombre de Barad-dûr au Mordor, près de la montagne du feu, au moyen de l'anneau unique. Mais pour y parvenir, il avait été obligé de faire passer une grande partie de ses propres pouvoirs personnels, thème fréquent et très significatif dans le mythe et le conte de fées, dans l'anneau unique. Tant qu'il le portait, son pouvoir sur la terre était en fait renforcé. Mais même s'il ne le portait pas, ce pouvoir existait et était en rapport avec sa personne. Lui-même n'était pas diminué. À moins que quelqu'un d'autre ne s'en empare et n'en prenne possession. Si cela se produisait, le nouveau possesseur pourrait, s'il était d'une nature suffisamment forte et héroïque, défier Sauron, devenir maître de tout ce qu'il avait appris ou fait depuis la fabrication de l'anneau unique, et ainsi le renverser et usurper sa place. C'était là le point faible essentiel qu'il avait introduit dans sa situation, dans son effort, sans grand succès, pour asservir les elfes, et dans son désir d'établir un contrôle sur les esprits et les volontés de ses serviteurs. Il possédait un autre point faible. S'il arrivait que l'anneau unique fût défait, annihilé, alors son pouvoir serait dissous. La personne même de Sauron serait réduite à néant, et il ne serait plus qu'une ombre, plus que le souvenir d'une volonté malveillante. Mais cela, il ne l'avait jamais envisagé ni craint. Aucune autre forge que la sienne ne pouvait détruire l'anneau. Aucun feu ne pouvait le faire fondre, excepté l'inextinguible feu souterrain où il avait été fabriqué et que personne ne pouvait approcher au Mordor. En outre, le pouvoir qu'avait l'anneau de susciter la convoitise était si grand que quiconque l'utilisait tombait sous son emprise. Aucune volonté, pas même celle de Sauron, n'aurait la force de l'endommager, de s'en défaire ou de l'abandonner. C'est du moins ce qu'il pensait. Et de toute façon, il l'avait au doigt. Ainsi, alors que s'écoule le deuxième âge, un grand royaume, une théocratie maléfique, car Sauron est également le dieu de ses esclaves, se développe en terre du milieu. À l'ouest, en réalité on ne s'intéresse vraiment qu'à la région nord-ouest dans ces récits, se trouvent les refuges précaires des elfes, tandis que les hommes y sont à peu près non corrompus, bien qu'ignorants. Le meilleur et le plus noble groupe d'hommes est en fait parent de ceux qui sont partis à Númenor, mais ils demeurent dans un simple et homérique mode de vie patriarcal et tribal. Pendant ce temps, Númenor a gagné en richesse, en sagesse et en gloire, avec la lignée de grands rois vivant longtemps, descendants directs d'Elros, fils des Arendil et frères d'Elrond. La chute de Númenor, la deuxième chute de l'homme, ou l'homme réhabilité mais toujours mortel, entraîne la fin catastrophique non seulement du deuxième âge, mais du vieux monde, le monde premier des légendes envisagé comme plat et fini. Après quoi commence le troisième âge, un âge crépusculaire, un medium aevum, le premier du monde disloqué et transformé. Le dernier du règne déclinant des elfes visibles et pleinement incarnés, le dernier également dans lequel le mal prend une seule et dominante forme incarnée. La chute est en partie le résultat d'une faiblesse interne à l'homme, la conséquence autrement dit de la première chute, non rapportée dans ses récits, dont il s'est repenti mais non guéri définitivement. Sur terre, les récompenses sont plus dangereuses pour les hommes que les sanctions. La chute s'accomplit par la ruse de Sauron qui exploite ce point faible. Son thème central est, nécessairement selon moi dans une histoire concernant les hommes, un interdit ou prohibition. Les Nouménoréens résident à portée de vue de la Terre immortelle, la plus à l'est, RSEA. Étant les seuls hommes à parler une langue elfique, apprise au temps de leur alliance, ils communiquent constamment avec leurs vieux amis et alliés qui vivent soit dans la félicité d'RSEA ou au royaume de Gil-galad, sur les rivages de la Terre du Milieu. Ainsi devient-il presque impossible de les distinguer des elfes, physiquement et même du point de vue de leur pouvoir spirituel. Mais ils sont restés mortels, même si leur durée de vie a triplé ou plus que triplé en récompense. Cette récompense est leur perte, ou l'objet de leur tentation. Leur longue vie facilite leur réalisation dans les domaines de l'art et de la sagesse, mais engendre une attitude possessive envers ces choses, et le désir naît de jouir de plus en plus de temps pour en profiter. Anticipant cela en partie, les dieux posent dès le début un interdit aux Nouménoréens. Ils ne devront jamais voguer vers RSEA, ni vers l'ouest, jusqu'à perdre de vue leur propre terre. Dans toutes les autres directions, ils pourront aller comme ils l'entendent. Ils ne devront pas poser le pied sur les terres immortelles et ainsi s'éprendre d'une immortalité dans les limites du monde qui va contre leur loi, le destin ou don particulier d'Ilúvatar, Dieu, et que leur nature ne peut en fait tolérer. Ils chutent et perdent la grâce en trois phases. Premièrement, le consentement, l'obéissance libre et volontaire, mais non toutefois en totale connaissance de cause. Puis, pendant longtemps, ils obéissent à contre-cœur, récriminant de plus en plus ouvertement. Enfin, ils se rebellent, et un fossé apparaît entre les hommes du roi et les rebelles d'un côté, et la petite minorité des fidèles persécutés de l'autre. Dans un premier temps, étant des hommes pacifiques, ils emploient leur courage au voyage en mer. En dignes descendants des Arendil, ils deviennent des marins exceptionnels. Et l'Ouest leur étant interdit, ils voguent jusqu'aux extrêmes nord, sud et est. Ils se rendent le plus souvent sur les rivages occidentaux de la Terre du Milieu, où ils viennent en aide aux elfes et aux hommes qui combattent Sauron et s'attirent sa haine inextinguible. En ces temps-là, ils se présentent aux hommes sauvages comme des bienfaiteurs presque divins, apportant art et connaissances en cadeau, avant de s'éloigner à nouveau, laissant derrière eux de nombreuses légendes au sujet des rois et des dieux venus du couchant. Dans un deuxième temps, l'ère de l'orgueil, de la gloire et de la remise en question de l'interdit, ils commencent à rechercher la richesse plus que la félicité. Le désir d'échapper à la mort suscite un culte des morts, et ils décorent avec faste et grand art les tombes et monuments commémoratifs. Ils fondent alors des colonies sur les rivages occidentaux, mais elles prennent plutôt l'apparence de forteresses et de fabriques appartenant à des seigneurs qui recherchent la richesse. Et les Nouménoréens endossent le rôle de collecteurs d'impôts, transportant par mer toujours plus de marchandises dans leurs grands navires. Les Nouménoréens commencent à forger des armes et des engins. Cette phase prend fin et la dernière s'ouvre sur l'accession au trône du 13e roi de la lignée d'Elros, Tar-Kalion le Doré, le plus puissant et le plus orgueilleux de tous les rois. Quand il apprend que Sauron a pris le titre de roi des rois et de seigneur du monde, il décide de déposer ce prétendant. Il se rend en Terre du Milieu en force et avec majesté, et son armement est si imposant, et les Nouménoréens si terribles en ce jour de gloire, que les serviteurs de Sauron refusent de les affronter. Sauron se fait humble, rend hommage à Tar-Kalion, et est emmené à Nouménor comme otage et prisonnier. Mais là, il s'élève rapidement par sa ruse et ses connaissances du rang de serviteur à celui de premier conseiller du roi, qu'il séduit par ses mensonges ainsi que la majeure partie des seigneurs et du peuple. Il nie l'existence de Dieu, affirmant que l'unique n'est qu'une invention des jaloux Valar de l'Ouest, que l'oracle de leurs propres souhaits. Le premier des dieux est celui qui réside dans le vide, qui finira par vaincre, et qui, dans le vide, crée d'innombrables royaumes pour ses serviteurs. L'interdit n'est qu'un procédé reposant sur le mensonge et la peur pour empêcher les rois des hommes de s'emparer d'une vie éternelle et de rivaliser avec les Valar. Une nouvelle religion et un culte des ténèbres avec son temple voient le jour sous Sauron. Les fidèles sont persécutés et sacrifiés. Le mal s'étend également en terre du milieu par les Numenoréens qui deviennent là-bas de cruels et pervers maîtres de la nécromancie, massacrant et tourmentant les hommes. Et les anciennes légendes sont remplacées par de sombres récits pleins d'horreurs. Cela ne se passe cependant pas de cette manière dans le Nord-Ouest, où grâce aux elfes, seuls peuvent se rendre les fidèles qui restent les amis des elfes. Le principal havre pour les bons Numenoréens se trouve près de l'embouchure du grand fleuve Anduin. De là s'étend l'influence encore bénéfique de Numenor, remontant le fleuve et le long des côtes jusqu'au royaume de Gil-galad au nord, tandis que se développe un parler commun. Mais le stratagème de Sauron se réalise finalement. Tar-Kalion, sentant approcher le grand âge et la mort, encouragé par les incitations répétées de Sauron, finit par rassembler la plus grande de toutes les armadas. Il prend la mer vers l'ouest, enfreignant l'interdit, et part en guerre pour arracher aux dieux la vie éternelle dans les cercles du monde. Devant cette rébellion, d'une terrifiante folie blasphématoire, et ce danger réel, puisque les Numenoréens dirigés par Sauron auraient pu provoquer la ruine du Valinor même, les Valar renoncent à leur pouvoir délégué et font appel à Dieu. Ils reçoivent le pouvoir et la permission de régler la situation. Le vieux monde est disloqué et transformé. Un gouffre s'ouvre dans la mer et Tar-Kalion est englouti avec son armada. Numenor elle-même, au bord de l'abîme, bascule et disparaît à jamais dans l'abysse avec toute sa gloire. À partir de ce moment, il n'y a plus aucune présence visible du divin ou d'immortel sur terre. Valinor, ou le paradis, et même Eressëa sont retirés et ne restent plus que dans le souvenir de la terre. À présent, les hommes peuvent bien voguer vers l'ouest s'ils le veulent, aussi loin qu'ils le peuvent, mais ils ne s'approcheront pas plus près du Valinor ou du royaume béni et ne feront que retourner vers l'est pour se retrouver à leur point de départ. Car le monde est rond et fini, cercle dont on ne peut s'échapper, sauf par la mort. Seuls les immortels, les elfes qui s'attardent, pourront encore, s'ils le veulent, là du cercle du monde, embarquer et trouver la voie droite, parvenir à l'ancien ouest véritable pour trouver la paix. Ainsi la fin du deuxième âge s'écoule jusqu'à une immense catastrophe. Mais tout n'est pas encore tout à fait fini. Des survivants réchappent du cataclysme. Elendil le Grand, chef des fidèles, son nom signifie « ami des elfes », et ses fils Isildur et Anarion. Elendil, une figure de Noé qui s'est tenue à l'écart de la rébellion et a gardé des navires avec équipage et armement au large des côtes orientales de Numenor, fuit devant la tempête dévastatrice provoquée par le courroux de l'Ouest et est porté sur les vagues gigantesques qui ravagent l'ouest de la terre du milieu. Lui et ses compagnons sont rejetés sur les rivages, comme des exilés. Là, ils fondent les royaumes numénoréens de l'Arnor, près du royaume de Gil-galad au nord, et du Gondor, près de l'embouchure de l'Anduin, plus au sud. Étant immortel, Sauron échappe de justesse à la ruine de Numenor et retourne au Mordor, où après quelque temps, ayant retrouvé ses forces, il peut défier les exilés de Numenor. Le deuxième âge s'achève sur la dernière alliance, des elfes et des hommes, et le grand siège du Mordor. Il s'achève sur le renversement de Sauron et la destruction de cette deuxième incarnation visible du mal. Mais non sans qu'il faille en payer le prix, et sur une erreur désastreuse. Gil-galad et Elendil sont massacrés en abattant Sauron. Isildur, le fils d'Elendil, tranche le doigt de Sauron qui porte l'anneau et son pouvoir s'évanouit. Son esprit fuit parmi les ombres. Mais le mal commence son œuvre. Isildur revendique l'anneau comme rançon pour son père et refuse de le jeter dans le feu tout proche. Il s'éloigne mais se noie dans le grand fleuve et l'anneau est perdu sans que l'on ne sache plus rien de lui. Mais il n'est pas défait. Et la tour sombre construite grâce à lui demeure debout, vide mais non détruite. Ainsi s'achève le deuxième âge avec l'avènement des royaumes numénoréens et la disparition de la dernière royauté des hauts elfes.